Alors, il me semble que l'idée qui nous est donnée aujourd'hui, c'est que Dieu veut la vie. Dieu veut la vie, mais cette vie passe par la mort. Dieu veut la vie, mais cette vie passe par la mort. C'est ce qu'on a entendu dans la deuxième lecture. Hein. Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Il l'a livré pour nous donner la vie. Et il nous a donné la vie en livrant son Fils. Alors comment cette vie passe par la mort? D'abord dans la première lecture et ensuite dans l'Évangile. D'abord, avec le sacrifice d'Abraham, de quelle mort parle-t-on? On nous dit ceci, Dieu mit Abraham à l'épreuve, il lui demande de prendre qui? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. On a l'impression que Dieu est méchant, comme s'il va prendre plaisir en lui disant, tu vois, c'est vraiment celui que tu aimes, celui que tu chéris, ton unique, Isaac. Évidemment qu'il s'appelle Isaac. Abraham, c'est très bien le prénom de son fils. Surtout que l'autre, Ismaël, il l'a abandonné. Vous savez, avec Agar. Alors pourquoi il dit ça? Mais parce que certainement qu'Abraham a un rapport très possessif avec son fils. C'est son bien. Ce qui fait que quand Dieu lui dit « va sur la montagne pour un sacrifice », dans sa tête, un sacrifice, c'est un holocauste. Un holocauste, ça veut dire qu'on va brûler la victime. Et à l'époque d'Abraham, les sacrifices d'enfants étaient traditionnels. Mais qu'est-ce que j'entends dans le psaume? J'entends « il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ». Dieu n'est pas tordu. Il ne veut pas qu'on immole des enfants. Mais pour Abraham, non, ça ne pose pas de problème. En fait, ce que va immoler Abraham, c'est sa paternité possessive. Il va offrir son enfant véritablement à Dieu. Il va arrêter de l'avoir pour lui. Il va sortir de cette possession en sacrifiant cette paternité. Il avait déjà quitté un pays, premier sacrifice. Il quitte en ce moment une fausse image de Dieu qu'il a, une image très possessive d'un Dieu qui veut la mort. Et ensuite, il quitte sa propre paternité qui, elle-même, est très possessive. Et c'est intéressant parce qu'à la fin, on nous dit quoi? On nous dit qu'il trouve un bélier. Et le bélier, c'est le géniteur de l'agneau. C'est le papa de l'agneau. Hein? Donc le bélier, c'est la figure d'Abraham qui doit rentrer dans un sacrifice, lui. Ou alors la figure du père qui livre son fils. Voilà. Du coup, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire peut-être pour nous de rentrer dans une juste paternité? Hein? Faut pas confondre ce qu'on appelle le paternalisme et la paternité. Hein? Le paternalisme, c'est quand je recherche l'affectivité de l'autre pour me combler, moi. Hein? J'ai besoin des autres. Alors ça peut... L'exemple traditionnel, c'est l'enfant. L'enfant, tu es là pour me combler, pour combler mon affectivité. La paternité, c'est autre chose. Je me donne à celui qui m'est confié pour qu'il grandisse, qu'il soit plus libre et qu'il aime les autres et qu'il aime le monde. Le paternalisme est une recherche pour soi. La paternité est un don de soi. Alors, paternalisme, pour une mère, c'est pareil. Hein. On pourrait parler de maternalisme, je ne sais pas si ça existe. Bon, voilà. Alors peut-être que... Alors vous avez un bel exemple, c'est Jean-Baptiste. Vous voyez, Jean-Baptiste, il se sépare de ses disciples. Peut-être que nous n'avons pas forcément d'enfants, mais nous sommes parfois en responsabilité avec d'autres personnes. Est-ce que ces autres personnes, je vise leur bonheur, je les rends libres? Ou est-ce que je les garde de manière possessive comme Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, celui qui t'appartient? Certains n'ont pas forcément avec eux des personnes, mais ils peuvent avoir des œuvres. Voilà. J'ai cette grande œuvre, et où j'ai ce travail, et en fait, ça passe avant tout. Bon, c'est mon idole, c'est mon Isaac que je dois sacrifier. Alors, dans l'Évangile, on fait le deuil d'une autre image de Dieu. À chaque fois, il y a un deuil. Et c'est l'image que quand Dieu est là, il n'y a plus la croix. On a beaucoup de mal, nous, à conjuguer la croix et la gloire. Un petit peu comme les disciples d'Emmaüs. Hein? Jésus leur dit, ne saviez-vous pas que le Fils de l'homme devait souffrir pour entrer dans sa gloire? Qu'est-ce que dit le Père à la transfiguration? Il dit, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il ne l'avait pas dit au baptême, écoutez-le. Au baptême, il avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Là, il redit la même chose, il rajoute, écoutez-le. Question, que faut-il écouter? Qu'est-ce que vient de dire Jésus? Au baptême, Jésus n'a rien dit, donc c'est normal qu'il demande, qu'il ne rajoute pas cette phrase, écoutez-le. Là, par contre, il a dit quelque chose, je regarde juste avant. Il a dit, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir. Et ensuite, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix. Donc il est en train de nous dire, le Père, écoutez-le. Écoutez le fait que le Fils de l'homme doit souffrir. Et du coup, c'est dans ce crucifié que la gloire de Dieu va se manifester. Ne pensez pas que la gloire soit un événement futur. Nous, souvent, nous pensons les choses par séquence. On imagine le carême, par exemple, c'est un temps où il faut faire des sacrifices, il faut souffrir, il faut vraiment... Puis après, il y aura Pâques, et là, on sera dans la joie. Et on voit les choses comme séquence. Il y a la croix, et ensuite, il y a la gloire. Non ! Écoutez-le, oui, il vous parle de sa croix. Il vous demande de faire un chemin de croix, mais en même temps, il se montre à vous de manière glorieuse. Parce que dans la croix, il y a la gloire. Vous allez me dire, c'est pas très concret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous prenez... je vais vous en donner des exemples. Saint Ignace. Ignace de Loyola, c'est celui qui reçoit une balle, un boulet dans la jambe, qui est allongé et qui fait une retraite forcée. Et dans cette retraite forcée, il découvre le Christ. Et il découvre ce qu'on appelle les exercices de Saint Ignace. Donc c'est grâce, malheureusement, à cette maladie qu'il a compris et qu'il a conduit l'Église jusqu'à nous donner un pape extraordinaire. Qu'est-ce que dit Saint Paul ? C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Saint Paul ne dit pas « je suis faible et ensuite je serai fort ». C'est quand je suis faible que je suis fort. Jésus dit la même chose. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Quand je serai élevé de terre. Et le centurion, le soldat, se convertit face à la croix. Alors j'ai d'autres exemples, j'en ai plein. Alors peut-être pour notre vie, je pensais, nous par exemple, à... Nous sommes dans l'année de la vie consacrée. Donc les consacrés, c'est ceux qui font un vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance. Mais qu'est-ce que c'est que ces vœux-là? C'est une mort. La chasteté, c'est de dire « je ne donnerai pas la vie ». Et en choisissant de ne pas donner la vie à plusieurs enfants, en choisissant de refuser finalement cette vie conjugale, en fermant mes bras sur personne, je vais les ouvrir sur le monde entier. C'est pour la vie que je suis chaste. La pauvreté, en choisissant de faire mourir ma volonté propre, c'est facile d'être obéissant quand on est d'accord avec la personne. Mais souvent dans l'obéissance, à un moment donné, on obéit alors qu'on ne comprend pas très très bien pourquoi je suis là, pourquoi vous me demandez telle mission. En choisissant l'obéissance, en choisissant de mourir à cette volonté propre, je rentre en plus de vie. En choisissant la pauvreté, j'ai une plus grande richesse. Et là, il faut relire tout ce que dit Mère Teresa. Je pense que toute notre vie est un mystère de mort, en fait. Je pense à d'autres exemples. Le perfectionnisme. On peut être très perfectionniste. Là, vous avez des personnes, elles font tout très bien, mais alors, quand vous êtes invité chez elles, vous voyez, il y a toujours... D'abord, il faut prévenir plusieurs jours à l'avance, sinon c'est la panique. Il y a deux, trois verres, deux, trois assiettes. Et alors, la personne, en fait, au bout de 10 ans, elle est épuisée. Elle est épuisée. Et alors, elle est très exigeante pour ses enfants, pour son mari, etc., pour tout le monde. Le jour où elle accepte que les choses ne soient pas parfaites, de recevoir simplement, d'être cool, de ne pas se donner une exigence, eh bien, à ce moment-là, curieusement, il y a de la vie pour elle, en elle et autour d'elle. J'ai accepté de faire mourir un certain idéal et je donne la vie. Le pardon, qu'est-ce que c'est que le pardon ? C'est faire mourir notre orgueil. Le pardon dans le couple, le pardon à l'autre, c'est une mort pour qu'il y ait la vie. Je prends un dernier exemple. Je pense à des couples qui ont des difficultés pour communiquer. Alors je leur dis, écoutez, vous savez, il va falloir vivre deux morts. La première mort, c'est, en fait, vous allez prendre un temps régulier, ensemble, tous les 15 jours, tous les mois, toutes les semaines, je ne sais pas, toutes les 3 semaines. Bref, un temps pour vous. Donc, vous allez devoir, l'un ou l'autre, c'est plus difficile pour l'un ou pour l'autre, mourir à votre ordinateur, à je ne sais pas quoi, à votre activité. On a tous une activité. Première mort. Et deuxième mort, vous allez dire, tiens, ben, je sais pas, tous les 15 jours, on va faire une activité qui va nous détendre ensemble. Alors, ce mois-ci, c'est toi qui vas choisir l'activité. Le mois prochain, c'est moi qui vais choisir. Et quand je vais choisir, je vais me mettre devant le Seigneur en disant, Seigneur, qu'est-ce qui serait bien pour nous, qu'est-ce qui serait bien pour l'autre ? Donc, c'est encore une mort. C'est-à-dire que je me dis, mais tiens, mais... Je ne vais pas voir mon bien en premier à moi personnellement. Hein? Celui que tu chéris, ton unique. Mais je me dis, quel est le bien de l'autre? Et puis l'autre, il va mourir aussi en acceptant une proposition qui n'est pas la sienne. Et progressivement, on retrouve une communication. Là encore, un exemple de mort. Alors demandons, pour ce temps de carême, vous voyez, qui est un temps de mort, hein? Nous lisons la transfiguration pendant le carême. Donc ça veut nous dire quelque chose. Ça veut nous dire que nos efforts, nos sacrifices, notre jeûne, je ne sais quoi, eh bien c'est un mystère de lumière et de vie. Donc reprenons conscience de ça et puis demandons au Seigneur eh bien, de comprendre quelle est cette juste paternité, maternité par rapport à nos œuvres et par rapport aux personnes. Amen.